Tout ce week-end, on a eu un séminaire, donc ici, à Betzalel. Je vais un peu l'écarter, comme ça fera moins pouf-pouf. C'est bien ? Merci Jean-Luc. Et on a partagé des choses, des révélations, vraiment de la part de Dieu, dans la communion fraternelle, c'est extraordinaire. Et j'avais prévu, en fait, aujourd'hui, de conclure sur le séminaire, seulement j'ai été plus vite que prévu. J'avais compté trop large. Et tant mieux, parce que ça nous a permis d'avoir eu fini hier. Et finalement, je me suis dit, ok, c'est bien, j'ai tout dit, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous partager? Et là, je me suis mis en prière devant le Seigneur. Et déjà, toute cette semaine, j'avais reçu une parole que je prenais pour moi, personnellement. Et cette parole, elle m'est revenue spécifiquement pour aujourd'hui. Alors je me suis dit que peut-être il y a quelqu'un d'entre vous, ou peut-être vous tous, qui a vraiment besoin d'entendre cette parole. Et cette parole, elle se trouve dans les Écritures, dans le livre de 1 Corinthiens. Et cette parole, elle nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas à vous-même ?» Après, je me suis dit « Seigneur, merci, c'est une belle parole ». On le sait tous, on a déjà tous lu ça, c'est un grand étendard dans nos milieux. Et je me suis dit, mais en quoi, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut apporter de nouveau? Quel regard on peut avoir en plus sur tout ce que déjà ceux qui nous ont précédés nous ont partagé de tellement enrichissant dans notre vie au quotidien et dans notre foi? Et puis le Seigneur, il m'a rappelé d'autres passages que je vais vous partager. Et là, tâche qui m'incombe aujourd'hui, elle n'est pas facile. Parce que on va se remettre en question. On va se remettre en question, pas pour critiquer et détruire ce qui a été dit et fait par le passé, parce que sinon on recommence à chaque fois et finalement on n'avance jamais. Et il faut savoir que ceux qui nous ont précédés ont aussi été remplis de l'Esprit de Dieu et nous ont apporté des choses dont nous avons besoin dans notre héritage. Et nous devons maintenant continuer de bâtir sur ce qu'ils nous ont donné, sur ce qu'ils nous ont laissé. Malheureusement, dans les siècles passés, il y a des loups déguisés en agneaux qui sont passés par là et qui ont semé livrer, qui ont semé des fausses théologies, qui ont semé des fausses théories, qui aujourd'hui, malgré nous, nous empêchent vraiment, qui aujourd'hui, malgré nous, nous maintient à une certaine distance de Christ. Et aujourd'hui, mon but avec vous tous, ce n'est pas de justement démolir et critiquer, pas du tout. Mon souhait n'est pas d'ébranler votre foi, mais simplement d'attiser votre zèle pour que nous continuions de bâtir sur ce que ces derniers siècles nous ont apporté. Et ce que ces derniers siècles, ce que je vais dire, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas aujourd'hui. C'est le travail de ceux qui nous ont précédés, c'est eux qui ont fait le travail le plus important. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils nous ont prêché? Ils nous ont prêché Christ est la pierre angulaire. Et c'est sur Christ que nous devons bâtir. Et ça, c'est la chose la plus importante qu'on devait entendre. C'est le début, c'est le commencement, c'est le Béréchit de tout. Sans ça, il n'y a rien. C'est le néant, c'est les ténèbres. Inutile de vouloir bâtir quoi que ce soit dans ces conditions. Et aujourd'hui seulement, nous ne devons pas nous arrêter là où nous en sommes. On doit aller plus loin. On doit encore se rapprocher. Pas par nos forces, par l'Esprit Saint qui habite en nous, que Jésus a mis en nous. Il y a vraiment un avant et un après Jésus. Après sa mort et sa résurrection, l'Esprit Saint était répandu sur toute chair. Et n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Seulement aujourd'hui, voilà, on a cette pierre angulaire, précieuse, de masse importante, un rocher sur laquelle nous devons bâtir. Nous connaissons le rocher, nous savons où il se trouve. Nous-mêmes, on se tient debout sur ce rocher. Mais est-ce que réellement on a encore bâti sur cet rocher un édifice qu'on avait plutôt bâti sur la plage avant de rencontrer Christ dans nos vies? Et c'est vraiment ma motivation, c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui. Et parfois ça peut paraître assez lourd de remettre en question, mais vraiment gardez toujours dans votre tête et dans votre cœur, ce que nous avons reçu n'est pas mauvais. Et ne laissez personne, même pas moi, ni quoi que ce soit, remettre votre sincérité et votre motivation en doute. Ce n'est pas de ça qu'on parle. À aucun moment, votre sincérité, le jour où vous avez accepté Jésus, votre motivation, le jour où vous l'avez reçu comme sauveur personnel, ne laissez personne remettre ça en doute. Pourquoi ? Parce que ça, ce n'est pas la religion qui vous l'a apporté. Ce n'est pas la religion qui a placé ce sentiment dans vos cœurs. Si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est sur une conviction du Saint-Esprit dans vos vies. Le Saint-Esprit qui était en chacun d'entre vous. Et il est venu, il vous a donné un conseil, il vous a donné une invitation. Et il vous a dit, mon enfant, est-ce que tu veux reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur? Et si vous avez dit oui, ça ce n'est pas à remettre en question. Ça c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et ne laissez jamais personne, ni quoi que ce soit, remettre ça en question. C'est à ça qu'on doit s'accrocher. Et sur cette pierre angulaire, précieuse, choisie, nous devons bâtir sur le fondement, comme nous dit Éphésiens 2, sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? N'attristez pas l'Esprit Saint qui est en vous. Ça peut arriver. Et il y a une lutte. Paul nous décrit qu'il y a une lutte entre l'Esprit qui est en nous et la chair qui nous constitue. Et dans cette lutte, on peut y voir le système des vases communicants. Quand la chair triomphe par le péché, notre chair augmente et l'Esprit Saint est attristé et il diminue. Et là, on constate dans nos vies un manque de foi, un manque de courage, un manque de puissance, parce que l'Esprit n'a pas beaucoup de place et parce que notre je, notre moi, vie. Et Paul parle d'une circoncision qui est assez particulière. Vous savez, dans la Bible, on parle souvent de circoncision. Il y a la première qui est avec Abraham, et puis dans les Écritures, c'est repris déjà dans Deutéronome. On parle de la circoncision du cœur. Et Paul parle de la circoncision de la chair, c'est-à-dire notre corps qui est fait de chair, cette tente corruptible, ce corps qui est fait de chair. Paul, il dit qu'il doit être circoncis pour laisser place à Christ. Et il appelle ça la circoncision de Christ. Et il y a ce combat entre notre esprit et notre chair. Et quand l'un diminue, l'autre augmente. Et si la chair diminue, l'esprit prend la place, prend plus en plus de place dans nos vies. Et aujourd'hui, ce que nous devons rechercher avec les temps qui courent, avec ce qu'on vit. Hier et vendredi, on a vu dans les Écritures vraiment qu'on vit des temps particuliers. Il y a eu des tétrades pour ceux qui ont, enfin, il y a une tétrade 2014-2015 pour ceux qui en ont entendu parler. Le soleil se change en sang et la lune en ténèbres. Le soleil se change en ténèbres et la lune en sang. Eh bien, écoutez, Jean-Luc. Et tout ceci sont des signes que Dieu a placés dans les cieux pour nous dire « veillez ». Je vais peut-être revenir maintenant. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va bientôt revenir et veiller à ma venue, afin de ne pas être trouvé dans les ténèbres au moment où je paraîtrai. Soyez debout et non pas endormis. Marchez dans la sainteté. Et pour ça, aujourd'hui, le combat est rude dans la société dans laquelle nous vivons. Vous ne trouvez pas ? C'est un monde débauché, de plus en plus jeune. On est débauché Aujourd'hui, il n'y a pas que la pornographie. Aujourd'hui, la moyenne des enfants entre 8 et 11 ans ont déjà vu un film pornographique. Dès leur plus jeune âge, l'ennemi essaye de mettre un lien sur leur vie. Et plus on consomme le péché, et plus ce lien, il devient grand. Tu veux que je change le micro peut-être ? Oui ? Un, deux, voilà. Et plus on consomme le péché, et plus ce lien sur nos vies devient fort et grand. Au début, on est lié par un brin d'herbe. Et puis ce brin d'herbe, tout doucement, il se transforme en corde. Et puis la corde, ça devient des petites chaînes. Puis ces petites chaînes deviennent de plus en plus grosses. Et puis quand on est enchaîné dans le péché de la tête aux pieds, eh bien, c'est des murailles après qui nous entourent. Et puis quand elles sont suffisamment hautes, l'ennemi les épaissit. Et on se retrouve enraciné avec l'Esprit Saint qui est attristé en nous, avec l'Esprit Saint qui n'a que peu de place. Et à un certain moment, on a tellement consommé le péché que l'Esprit Saint nous quitte. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les ténèbres, où la violence, où la méchanceté deviennent de plus en plus fortes. Parce que l'Esprit Saint quitte les gens qui vivent dans les ténèbres. Et le Seigneur, il attend. Il permet que les temps avancent. Et plus on endurcit notre cœur, à un certain moment, l'Éternel dit « Ok, vous avez endurci votre cœur. » C'était le cas du Pharaon. Lorsque l'Éternel avait envoyé Moïse et Aaron pour lui parler, il dit « Toi, endurcis ton cœur pour 80%. Maintenant, pour les 20 derniers pourcents, c'est moi qui vais endurcir ton cœur. » Et une fois que le cœur de l'homme est endurci, et qu'il n'y a aucun moyen, parce que Dieu sonde nos cœurs, même ceux des méchants, même ceux des injustes. Et lorsqu'il sonde nos cœurs et qu'il voit qu'il n'y a plus aucune repentance qui est possible, alors il envoie son jugement sur la terre. C'est ce qui est arrivé à la génération de Noé, c'est ce qui a failli arriver à Ninive, seulement ils se sont repentis, ils sont revenus au Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. L'Éternel a dit, les projets de malheur que j'avais faits n'arriveront pas. C'est ce qui est arrivé à la génération de Sodome et Gomorre. Vous vivez dans la débauche totale. L'Éternel a envoyé des anges pour aller chercher les siens. Une fois qu'ils ont été emmenés, le jugement est tombé sur la terre. Parce que le cœur de la ville de Sodome et Gomorre était tellement endurci que Dieu a sondé les cœurs et qu'il y a vu qu'il n'y avait plus aucun espoir pour qu'ils reviennent à lui. Et son jugement est tombé. C'est le point de non-retour. Le point de non-retour est atteint. C'est un terme dans l'aviation. Une fois que l'avion a décollé, s'il a quelques problèmes que ce soit, il peut revenir à son point de départ pour réatterrir, tant qu'il a une certaine distance. Et s'il doit parcourir 1000 km, on va dire qu'une fois qu'il a passé les 300 km de son point de départ, à ce moment-là, il doit se débrouiller. Il ne peut plus revenir en arrière. Et aujourd'hui, notre société, c'est tout doucement vers ce point qu'elle est en train de se diriger. Elle est en train d'atteindre le point de non-retour. Et quand le point de non-retour est atteint, la colère de Dieu est sans remède. Il n'y a plus rien à faire. L'Éternel ne reviendra pas sur sa décision et il jugera cette terre. Et ce qui est difficile pour nous aujourd'hui en tant que personnes qui désirons marcher à la suite de Christ et non pas à la suite du monde, eh bien, dans leur mouvement vers ce point de non-retour, ils nous entraînent avec eux. Ça, c'est comme une aspiration. Il y a une grande foule qui est derrière, ça crée une aspiration. Et à cause de ce qu'ils placent dans la société, à cause de ce qu'ils mettent dans les télés, à cause de ce qu'ils mettent dans les films, à cause de ce qu'ils mettent sur Internet, à cause de tout ce péché qui est en train de remplir la mesure, eh bien, le point de non-retour va bientôt être atteint. Et là, le jugement de Dieu y tombera. C'est pour ça que les temps de Dieu n'ont pas été fixés. Jésus dira à ses disciples, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps que mon Père a fixés de sa propre autorité. » Et un des indices sur c'est quoi le temps fixé de l'autorité de Dieu, eh bien, c'est ce point de non-retour. C'est ce qui a failli arriver à Ninive. Seulement, ils se sont repentis. L'homme a une immense part de liberté dans le plan de Dieu. Dieu n'est pas un super ordinateur qui a tout programmé et advienne que pourra. Si on devait être sauvé, on sera sauvé. Si on ne devait pas être sauvé, ça ne sert à rien de travailler à notre salut. C'est faux. Paul, il nous encourage. Je pense que c'est Paul qui nous encourage. Veillez à votre salut avec tremblement. C'est pas sauver un jour, sauver toujours. C'est tous les jours qu'on renouvelle notre décision aujourd'hui de marcher dans la sainteté par le Saint-Esprit avec Christ. Ou alors, de dire aujourd'hui, je vais me faire attirer par le monde et je vais chuter. C'est pas grave. Même le juste, celui que l'Éternel qualifie de juste, l'Éternel le relève 7 fois. Parce qu'il tombe 7 fois par jour. 7 fois l'Éternel le relèvera. Il le renforcera, il lui donnera du courage, il lui dira « Apprends tes erreurs, ne chute plus. » Ça, c'est la grâce de Dieu pour nos vies. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez pas à vous-même ? Ce n'est pas propriété, mon corps est à moi. Il y en a qui l'ont décidé. Le jugement, ce sera la destruction de ce corps. Parce que nos corps appartiennent au Seigneur. C'est lui qui a tissé tous les êtres humains, croyants ou non, dans le ventre de maman. C'est lui qui les a tissés. Personne d'autre. Même les personnes les plus radicales, les personnes les plus éloignées de Christ, c'est Dieu qui les a formés dans le ventre de leur mère. Et après, il y a le libre arbitre. Le libre arbitre. Et l'homme a une immense part de liberté dans le plan de Dieu. Dieu n'est pas un super ordinateur qui a tout programmé. Non. La preuve, c'est Ninive. Dieu avait dit une parole, je vais les détruire. Jonas arrive, ah, Dieu va vous détruire. Faites attention, parce que vous faites n'importe quoi avec vos corps. Et ils se sont repentis. Ils ont déclaré un jeûne, une repentance. Même les animaux, c'est la seule fois que ça se voit dans la Bible, même les animaux ont jeûné tellement cette repentance était sincère. Parce que oui, parce que le dérèglement, lorsqu'il touche à la terre, il ne touche pas juste les hommes. C'est toute la création qui souffre du dérèglement du péché sur la terre. Toute la création, les animaux y compris. Et c'est pour ça que les animaux aussi ont dû se repentir. Ils ont jeûné. Et l'Éternel, il dira 40 jours de jeûne, ok. Ce que j'avais dit que j'allais faire, je reviens sur ma colère et sur ma parole, malgré le fait que Dieu avait programmé la destruction de Ninive, à cause du libre arbitre qu'il a placé dans l'homme et l'homme qui a plié le genou devant son Seigneur, le Seigneur, il a dit, ok, ça se passera pas comme ça. Vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Et là, ils ont marché pour un temps. À la suite du seul et unique. Et Dieu était revenu de son plan de colère. Nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés. Nous avons été justifiés au nom du Seigneur et par l'Esprit de notre Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps sont les membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Paul nous dit, certes non, jamais de la vie. Parce que lorsqu'on va vers une prostituée, nous ne sommes qu'une seule et même chair avec la prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, pas une seule chair, un seul esprit. Un seul et même esprit. Il y a 2 corps sur cette terre. Le corps de la grande prostituée de Babylone et il y a le corps de Christ. Et si on vit la grande Babylone, c'est ce qui est repris dans l'Apocalypse, et c'est depuis la tour de Babel que la grande Babylone existe, que l'esprit impur qui a animé ces hommes existe. Et il y a un combat entre la descendance d'Abraham, qui est à Christ, et la descendance de la grande prostituée de Babylone. Et soit nous faisons partie d'un corps, d'un des deux corps, soit nous faisons partie de la grande Babylone en prenant part à la débauche et au dérèglement de ce monde, alors on prend la coupe de la grande Babylone remplie d'abominations sur cette terre et nous y buvons. C'est du vin mêlé de sang, de crime. Le sang, c'est le symbole du péché. Et de l'autre côté, sur une autre table, il y a une coupe spirituelle, celle de Christ, qu'il a élevée pour nous lorsqu'il est venu sur cette terre. Il a élevé cette coupe, la coupe Kos Yeshuot, la coupe du salut. Et il nous l'a tendu, il l'a proposé à ses disciples. Et c'est un vin pur qui est là, pas un vin mêlé d'abomination et d'horreur. Et lorsque nous participons à sa coupe, eh bien, nous sommes un seul et même esprit avec lui, pas un seul et même chair, un seul et même esprit. Et aujourd'hui, sur la table de nos cœurs, là où nous avons reçu le pain de proposition, le pain venu du ciel, aussi par cet événement de la Pâque, à côté de ce pain, il y a une bagarre, il y a une bataille. Pour qui mettra sa coupe ? Christ ou la grande prostituée ? Et ce combat, c'est tous les jours. C'est tous les jours dans nos vies. Et nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit qui combat avec et pour nous. Et le Saint-Esprit peut vaincre la grande Babylone, parce que Dieu envoie des anges pour nous garder, pour nous aider. Mais notre libre arbitre, c'est notre décision finale. Et si nous faisons partie du corps de la prostituée, l'Éternel ne prendra jamais un membre d'un corps d'une prostituée pour en faire son corps qui est saint, et vice-versa. Si nous sommes un corps saint, jamais nous ne pourrons faire partie du corps de la prostituée. Et notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en vous. Moi, longtemps dans ma vie, j'ai attendu un jour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Après mon baptême, on m'a posé la question, t'as vu la colombe ? J'ai fait, non. J'ai eu longtemps des doutes dans ma vie pour ça. Et je me suis dit, Seigneur, est-ce que vraiment, soit est-ce que ton Saint-Esprit m'accompagne et qui me parle et qui me conduit ? Ou est-ce que vraiment ton Saint-Esprit habite en moi ? J'ai eu longtemps des doutes. Je me suis dit, Seigneur, j'ai jamais vu les langues de feu, j'ai jamais vu... Je ne sais pas trop. Et puis un jour, en partageant avec une sœur, on partageait les Écritures, et ses yeux se sont ouverts sur les Écritures lorsqu'on partageait, moi, mon épouse, il y avait son mari, il y avait elle, et ses yeux se sont ouverts sur les Écritures. Et elle m'a posé cette question, je ne sais pas pourquoi elle me posait cette question. Elle me dit, cette révélation que tu viens de me partager, qui te l'a donnée ? L'esprit ou la chair ? Je lui ai dit, ça ne peut pas venir de la chair. Impossible, les révélations divines ne viennent pas de la chair. Dans notre chair, il n'y a que le péché, c'est le siège du péché. Et elle m'a dit, alors c'est le Saint-Esprit. Je lui ai dit, peut-être, j'espère de tout mon cœur, que ce n'est pas juste une intelligence humaine, charnelle. Et puis elle m'a dit, non. Elle m'a dit, crois-moi. Ses yeux s'étaient ouverts sur quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. Apparemment, c'était une réponse qu'elle attendait. Elle dit, ce que tu m'as partagé aujourd'hui ne vient pas de toi. Et fais attention parce que si tu dis que ça vient de toi, tu prends la gloire qui est réservée à Dieu. Parce que quand on a des révélations, c'est gloire à Dieu, c'est pas gloire aux hommes. Il n'y a pas en moi une sagesse supérieure à qui que ce soit. Aucune sagesse supérieure à qui que ce soit. Mais c'est quand Dieu nous fait grâce de nous donner une révélation, elle a dit, cette révélation vient du Saint-Esprit. Elle dit, le Saint-Esprit habite en toi. Elle a dit, il habite en chacun d'entre nous. Et elle m'avait mis vraiment à cœur de rechercher. Et j'ai compris que, n'ayant pas connu l'avant Jésus, pour nous c'est naturel de naître dans cette condition. Mais il y a vraiment un avant et un après-Christ. Après Christ, les hommes sont nés avec une nature différente que ceux qui sont venus dans le temps avant Christ. Et ce n'est pas à nous à discuter avec le Seigneur, oui, mais pourquoi, comment, c'est pas juste pour ceux qui sont venus avant. Non, le Seigneur avait dit, si vous, vous êtes là de cette manière, profitez de la condition que vous connaissez. Et il y a cette lutte en nous, dans notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, parce que nous avons été rachetés à un très, très, très grand prix. Toutes les richesses de cette terre, toutes les richesses du monde, toutes les merveilles du monde n'égalent pas le prix auquel nous avons été rachetés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est le prix de valeur. Quand j'ai été papa d'Ouriel, un jour, je chantais ce chant, « Dieu a tant aimé le monde ». Et pendant ce chant, j'ai vraiment une pensée qui me vient. Le Seigneur, il me dit, « Est-ce que tu sacrifierais ton fils ?» Et à ce moment-là, je n'avais que lui. Il me dit, « Est-ce que tu sacrifierais ton fils, ton unique ? Si je te dis, si tu ne le fais pas, demain, une grande comète vient sur la terre, ça l'explose, tout le monde meurt. » J'ai dit, Seigneur, je ne pourrais pas, c'est au-delà de mes forces. Et il faut avoir été papa pour comprendre. Avant, je pouvais l'imaginer. Être devenu père, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la relation entre le père et le fils. Et là, le Seigneur, il me pose cette question. Et je dis, Seigneur, moi, la terre entière, elle peut exploser. Je m'en fous. J'exploserai avec mon gamin dans mes bras. Mais jamais, jamais, je sacrifierai mon fils. Il dit, alors tu comprends ce que j'ai sacrifié pour toi, ce que j'ai sacrifié pour tous ceux qui vivent en moi. Et j'ai dit, Seigneur, quel amour infini. Quel amour infini que tu as eu pour chacun d'entre nous. On a été racheté à un très très grand prix. Et dans Exode, chapitre 19, il faut savoir aussi que Dieu, l'histoire du temple et du tabernacle et les instructions qui ont été données à Moïse concernant le temple et le tabernacle peuvent être directement adaptées à chacun d'entre nous. Parce que aujourd'hui, par l'action de Jésus dans nos vies, chacun d'entre nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et toutes ces prescriptions et ces ordonnances et ces commandements qui sont liés au tabernacle, dans nos vies, qu'est-ce qu'on en a réellement fait? On s'est dit, on n'est pas lévite. C'est pas pour nous. Donc, ces prescriptions, de toute façon, on ne doit plus construire de tabernacle. On est des tabernacles vivants. Oui, mais ce qui régit le tabernacle terrestre n'était que l'image de ce qui régissait le tabernacle céleste. Et il y a une réalité, si nous sommes des tabernacles vivants, il y a une réalité pour chacun d'entre nous dans ses préceptes, ses commandements et ses ordonnances. Il faut savoir que le tabernacle, c'est quelque chose de très précis. Et on pourrait passer une semaine de séminaire pour analyser tout ce qui nous concerne. Notre cœur est l'arche sainte, l'arche de l'Alliance, parce que c'est sur nos cœurs que Dieu règne. La nuée habitait sur l'arche de l'Alliance entre les deux chérubins. Et nous avons sur notre cœur aussi deux chérubins qui veillent pour que Dieu reste sur ce trône et habite. Ça, c'est dans notre homme intérieur, c'est dans notre esprit. Puis il y a le lieu saint, où il y a le pain de proposition, où il y a la menorah. La menorah à sept branches, le chandelier à sept branches, qui est la lumière éternelle. C'est Jésus qui est venu éclairer nos âmes. Il n'est pas venu éclairer notre esprit. Notre esprit, il est parfaitement en accord avec Dieu. Il est venu éclairer nos âmes. Pourquoi nos âmes? Parce que nos âmes, tout à l'heure, elles peuvent se lier à notre chair, où notre âme peut se lier à notre esprit. Si elle se lie à notre esprit, on marchera dans la volonté de Dieu. Si elle se lie à notre chair, nous pécherons. Et c'est l'esprit qui est laissé de côté et qui diminue. Parce que la chair et l'âme ont fait une coalition ensemble et à deux, on est plus fort. Et nous sommes comme corps, âme et esprit. Et dans le jardin d'Éden, ce qui était le plus élevé dans l'homme, c'était l'âme. C'était l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu communiquait à l'Esprit de l'homme. Mais le jour de la chute est soumise à l'Esprit. Il y avait l'âme et le corps, qui n'était pas un corps de chair, mais qui était un corps spirituel. Et le jour de la chute, cette hiérarchie a été chamboulée. Et c'est l'âme qui a été placée au-dessus, l'Esprit est descendu, et nous avons été habillés d'un corps de chair. Et quand l'âme se lie à notre esprit, c'est pour ça qu'il est écrit, « Seigneur, mon âme languit après toi, pas mon esprit, parce que l'esprit, languit, il est avec le Seigneur, mais mon âme languit après toi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme. » Parce que si notre âme s'attache au Seigneur, ce qui est notre lieu saint, si notre âme s'attache au Seigneur, alors nous marcherons en nouveauté de vie par l'Esprit qui vit en nous. Parce que l'âme et l'Esprit ne formeront qu'une seule et même personne. Mais si notre corps se lie à notre âme, alors nous attristons le Saint-Esprit qui est en nous. Et puis il y a notre corps. Le corps, notre corps, c'est le parvis. Le parvis, c'était aussi la cour du temple, c'est là où il y avait l'autel des sacrifices, où il y avait la bassine de bronze avec de l'eau pour se purifier avant de rentrer dans le lieu très saint, le lieu saint. Et une fois par an, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Et le premier commandement, la première chose que Moïse va commander au peuple concernant la construction du tabernacle, et c'est à ça que je voudrais me limiter, concernant le tabernacle, c'est l'Éternel, il dira ceci. Déjà dans Exode 19, il dit « Je vais faire de vous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. » Et un jour, je me suis posé la question, j'ai dit « Oui, mais alors pourquoi t'as ordonné les Lévites ? Si c'était toute la nation qui avait ce rôle de sacrificateur, pourquoi après uniquement les Lévites, et pas toutes les familles Lévites, uniquement les descendants, il y a 4 familles Lévites, mais uniquement les descendants d'Aaron pourront avoir la sacrificature ? Je me suis dit, pour moi, ça, c'était contraire. Le Seigneur dit, non, il n'y a rien de contraire. Vous serez sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek, comme nous dit Hébreux, le livre aux Hébreux dans la Nouvelle Alliance. Lorsque Yeshua est remonté s'asseoir à la droite du Père dans les cieux, il lui a dit, viens t'asseoir à ma droite et je ferai de toi le souverain sacrificateur à la manière de Melchizedek. Le souverain sacrificateur, c'est celui qui est le plus élevé dans toute la hiérarchie, et en dessous, ceux qui font partie de son corps sont des sacrificateurs. Et nous n'avons pas besoin d'attendre la colombe le jour de notre baptême, parce que l'onction, baptême du Saint-Esprit, et l'onction, on ne la faisait uniquement que sur la tête du souverain sacrificateur. Mais ensuite, il y a un psaume qui nous dit, hein, cette huile qu'on répand sur la tête d'Aaron, qui coule jusque sur tout son corps, jusqu'à ses pieds. Et là, lorsque nous sommes dans le corps de Christ, c'est le Saint-Esprit, l'onction que Christ a reçue le jour de son baptême, qui arrive sur sa tête et qui va couler sur tout son corps. Et de cette manière, nous n'avons pas besoin de recevoir notre baptême du Saint-Esprit ou notre onction personnelle à nous, parce que cette huile, avant, elle a coulé sur la tête de Christ. Et après avoir coulé sur la tête de Christ, qui est le premier à avoir été oint, cette huile d'onction coule sur tous les membres de son corps. Et en tant que pierre vivante et tabernacle vivant, nous faisons partie de son corps. Et moi, j'ai pas besoin de recevoir une onction personnelle. Je me contente largement de participer à l'onction que Christ a reçue sur sa tête et cette onction qui découle sur tout son corps. Amen. Alors, le premier commandement qui a été donné, c'est dans Apocalypse, aussi par rapport à ce royaume de sacrificateurs, dans l'Apocalypse, le Seigneur, il nous a dit à celui qui nous aime et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. Nous serons sacrificateurs pour l'éternité. Habillés de robes blanches, de sainteté, robes lavées dans le sang de l'agneau. Et ces robes de fin lin blanc, ce sont les œuvres des justes. Nous sommes habillés d'une robe blanche quand nous marchons dans les commandements de l'Éternel. Mais seulement dans nos actions, on n'est pas toujours blanc. Parfois on se tache parce qu'on pêche. Et là, il est nécessaire de blanchir notre robe dans le sang de l'agneau. Et ensuite, en gardant les commandements de l'Éternel, nous maintenons cette robe blanche. Et quand je dis « nous maintenons », en réalité, c'est l'action du Saint-Esprit dans nos vies, lorsque nous obéissons aux commandements de Dieu, le Saint-Esprit qui inscrit les commandements de Dieu sur nos cœurs, alors nous marchons et nous maintenons cette robe qui est blanche. Dans Exode 25, le premier commandement, l'Éternel dit ceci à Moïse, il dit « Tu relèveras une offrande chez tout homme qui a un cœur bien disposé, qui a un cœur généreux, qui a un cœur, il y avait un troisième mot, que son cœur a rendu volontaire. » Cette expression, elle m'a interpellé. Je me suis dit, Seigneur, comment ? Pourquoi le cœur rend l'homme volontaire ou involontaire ? Je ne comprenais pas très bien. Un cœur généreux, ça va, bon. Ben, un cœur bien disposé. Et là, je me suis intéressé aux mots en hébreu. Et il faut savoir que nous, dans nos Bibles en français, il y a deux mots hébreux qui qualifient offrande. En français, il n'y en a qu'un et c'est le mot offrande. Seulement, ces deux mots en hébreu, ils ont vraiment deux racines totalement différentes qui veulent nous amener vraiment sur deux terrains complètement différents. Et cette offrande dont on parle, l'Éternel, il dit, tu relèveras une terouma. Terouma, c'est vraiment une offrande par ceux qui ont été rendus avec le cœur généreux. Et c'est une offrande dans le sens d'une contribution. Et c'est le jour où le peuple avait dû amener de l'or, de l'huile, de l'argent, du bronze, des peaux d'animaux et ainsi de suite à Moïse pour que Moïse puisse faire ordonner la construction par Betsalel, pour que Betsalel puisse construire la maison de Dieu. Et tout homme au cœur généreux devait apporter cette terouma, cette offrande, une offrande de contribution à la construction du tabernacle. Littéralement, c'est ça, terouma. Il y a un deuxième mot en hébreu pour offrande, qui est korban. On retrouve ça dans les Nouvelles Écritures, dans les Écritures de la Nouvelle Alliance, où Jésus reproche aux pharisiens, vous dites ce dont vous aurez pu assister vos parents, c'est korban. Et korban, c'est quoi? C'est une offrande, mais en réalité, c'est une offrande qu'on fait au temple pour qu'il y ait un sacrifice qui soit réalisé, un sacrifice animal. Donc, c'est deux choses totalement différentes. Soit on apporte et c'est ce qu'on fait quand on apporte notre dîme, on apporte une terouma à l'église pour que la maison de Dieu soit bâtie. Et quand on apporte un sacrifice animal, généralement c'était pour le pardon des péchés ou c'était pour un sacrifice de communion, c'est-à-dire pour être en communion avec l'Éternel et ainsi de suite. Et c'est deux choses totalement différentes et distinctes. Et lorsque vous apportez votre terouma, ne pensez pas que vous apportez votre korban, parce que ça veut dire que vous essayez de vous racheter vous-même avec les dons. Non, il faut être conscient que c'est une terouma, une offrande de contribution, pas une offrande de sacrifice animal, parce que ce sacrifice animal, comme nous disent les Écritures de la Nouvelle Alliance, a été accompli en Jésus. Il n'est pas question de monnayer notre salut. Hein ? Je me suis intéressé aux racines de ces deux mots. Terouma, la racine du mot en hébreu, c'est roum. Et une racine primaire, qui est composée de deux ou trois lettres, va signifier quelque chose. Et roum, ça signifie quoi? Ça signifie s'élever ou être élevé. En l'occurrence, quand on apporte une terouma, on est élevé vers Dieu. Mais korban, la racine, c'est karov. Et karov, ça signifie s'approcher de. Quand on apportait une korban au temple, on arrivait avec notre biquette ou ce qu'on apportait. Les sacrificateurs venaient nous chercher à la porte du parvis et on avait parfois le droit, parfois pas, d'aller avec les sacrificateurs jusqu'à l'autel des sacrifices. Et en faisant ce chemin, lorsqu'on se rapproche de l'autel des sacrifices, on se rapproche du lieu saint et du lieu très saint qui est derrière le lieu saint. Et en apportant ce sacrifice, on s'était approché de Dieu dans la cour du parvis. Et on s'arrêtait généralement à l'autel des sacrifices. Et donc, c'était littéralement s'approcher de Dieu. C'est quand même fort différent que d'être élevé vers Dieu. Mais en même temps, Corban, c'est une connotation très particulière parce que ça veut dire aussi entrer dans, rentrer dans quelque chose. Et en l'occurrence, quand on fait une corban, on rentre dans Dieu. C'est une façon de voir les choses. Hein, Yeshua, il nous dit, hein, si vous êtes en moi, vous êtes juste dans le Père, vous êtes dans le Père. Et donc, par ce sacrifice animal, qui est Jésus, il dit qu'il est venu accomplir, hein, tous les sacrifices animaux de l'ancienne alliance n'étaient que l'ombre des choses à venir concernant une réalité bien plus élevée, bien plus puissante que le sang des animaux, des boucs, des agneaux et ainsi de suite. C'était des images pour nous préparer à l'avenue du Messie. Et alors, lorsqu'on apporte cette corban, le jour où on accepte Yeshua dans notre vie, eh bien, on s'est approché de Dieu. Et le jour où on accepte Jésus, on fait une terouma à Dieu, c'est-à-dire on fait une offrande à Dieu. Et ce qui est assez cocasse, c'est que lorsqu'on parle ici du mot cœur, on ne parle pas de l'organe, le cœur. Et pour moi, c'était trompeur parce que je ne parle plus le vieux français. Mais à l'époque, on disait cet homme ou cette femme ou cette chose est au cœur de cette affaire. Ça signifiait c'est au centre de. Et il faut savoir de la manière dont nous sommes composés aujourd'hui, c'est au centre de nous, il y a, comme nous dit Paul, un homme intérieur. Et l'homme intérieur, c'est notre cœur. C'est le cœur de l'homme. Le centre de l'homme, c'est l'esprit qui est en nous. Donc en dessous de ma chair, que vous voyez, il y a le cœur de l'homme qui est l'esprit de Dieu. Puis il y a l'âme qui est le lieu saint. Le cœur de l'homme, c'est le lieu très saint. Puis il y a l'âme, le lieu saint. Et finalement, il y a le corps, l'enveloppe charnelle. Et donc, ce qui a dû rendre l'homme volontaire, c'est son cœur, son homme intérieur. Et lorsqu'il a été rendu volontaire, il peut apporter une offrande de contribution à l'Éternel. Et l'Éternel, dans sa demande, ça m'a fait rire, il demande ce qu'il y a de plus précieux sur cette terre. Il demande de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, onyx, sardoine, topaze. Il demande des diamants, il demande vraiment... Bon, après, il demande de l'huile. Et il faut être conscient de quelque chose, ils étaient au désert. Et tout ce qu'ils avaient, c'est ce qu'ils avaient emmené d'Égypte, là où ils vivaient avant. Et l'Égypte peut être symbolisée par le monde pour nous, là où on vit. Et l'Éternel, il demande ce qu'ils avaient de plus cher et a donné sans mesure. Et là, on pourrait avoir une image de Dieu assez négative. Ben, le Seigneur, il veut s'enrichir sur mon compte. Mais après, je me suis posé cette question. Je dis, mais comment c'est possible? Parce qu'il y a un texte qui nous dit que toute la terre appartient à l'Éternel. Et tout ce qu'il a placé dans cette terre, c'est-à-dire les minerais précieux, or, argent et tout ça, lui appartient. Donc je me dis, Seigneur, comment on peut faire une offrande, une terouma, comment on peut s'élever vers toi en t'apportant quelque chose qui t'appartient déjà? Parce que si tu les as placés dans la terre, c'est qu'ils sont à toi. Et si moi je les trouve, mais je ne peux pas en faire ma propriété, ça t'appartient. Donc finalement, même quand vous apportez vos dons et vos offrandes, vos terumas, vos terumotes au pluriel, ben vous ne faites que restituer à Dieu ce qu'il a placé sur cette terre. Donc je me dis, Seigneur, elle est où l'offrande alors? Si ça t'appartient déjà, je ne comprends plus. Et ben le Seigneur, il m'a ouvert les yeux. Il dit, en réalité, au moment où tu m'apportes ta terouma, je sonde ton cœur, je sonde ton homme ou ta femme, je vous oublie pas, madame, ou je sonde ton homme ou ta femme intérieure. On va parler d'homme intérieur globalement, mais toutes les femmes sont concernées, tous les enfants aussi. Je sonde ton homme intérieur et je vois, quand tu m'apportes ta terouma, si ton homme intérieur est bien disposé ou mal disposé. Et c'est là où elle est la véritable offrande. La vraie offrande, c'est quand on va apporter à Dieu, peu importe, beaucoup, peu, précieux, pas précieux, peu importe. Mais au moment où on va lui faire une terouma, au moment où on va lui apporter, il sonde notre homme intérieur, et s'il voit qu'il est bien disposé, il nous dit, Voilà, ça c'était une offrande. Ton homme intérieur bien disposé, c'est ce qui fait materuma. C'est pas ce que tu as donné au temple, ce que tu as donné au tabernacle. C'est comment donne-t-on à l'Éternel ? Avec joie ou avec lamentation ? Avec un homme intérieur bien disposé ou mal disposé ? Et si l'un est possible, l'autre est possible. Et même quand bien même on apporterait une grande richesse au Seigneur mal disposé, eh bien, le Seigneur, il n'agréerait pas cette offrande. Il dit, il n'y avait pas de terouma pour moi, même que tu m'as apporté une grande richesse, pour moi, il n'y a pas de terouma, il n'y a pas d'offrande. Ce que tu as fait, c'est vain, ça ne sert à rien. Et donc, dans notre patrimoine, on peut apporter ce que nous avons dans nos possessions pour le meilleur et pour le pire. On a apporté donc notre offrande de contribution dans notre vie au Seigneur et malheureusement, lorsqu'ils ont créé le veau d'or, ils ont apporté aussi de leur patrimoine et en est sorti le veau d'or. Donc on voit que dans l'homme, il y a les deux chemins. On peut apporter soit le meilleur pour le Seigneur ou soit on peut mettre ce que l'Éternel nous a donné parce que c'est lui qui a tout placé sur cette terre et on peut le mettre au bénéfice du mal pour créer un veau d'or. Alors, je me suis demandé, magnifique Seigneur, on t'apporte toutes nos richesses, mais à quoi ça va te servir ? Est-ce que c'est pour te faire un gros compte en banque ? Le Seigneur m'a dit, bien sûr que non. Il m'a dit, c'est à vous que ça va servir. Il dit, s'il y a un tabernacle, c'est à moi que ça sert ? Vous croyez que j'ai besoin d'une demeure faite de la main des hommes ? Je suis le Dieu, je suis le créateur de l'univers, des cieux et de la terre. Est-ce que vraiment vous attendez que je me fasse un compte en banque pour me bâtir quelque chose avec ce que vous m'apportez ? C'est à vous que ça va servir d'apporter au Seigneur. C'est pas à lui que ça va servir. Avec ce qu'on va lui apporter, on va faire une pauvre tente, parce que le tabernacle, c'est pas très luxueux, même s'il y a de l'or à l'intérieur. Et une fois que cette tente, elle sera établie, Dieu viendra habiter au milieu de nous. Qui est mis à l'honneur, Dieu ou nous ? Nous sommes mis à l'honneur. Parce que ce qu'on a apporté au Seigneur, il le tourne à notre avantage. À notre avantage. Il vient habiter au milieu de nous. Il vient habiter dans notre cœur. Il vient habiter dans notre homme intérieur. Alors on parle de richesse, de ce qui est physique. Maintenant on va parler de ce qui est spirituel. La plus grande offrande que vous pouvez faire au Seigneur, la plus grande offrande, la plus grande terouma que vous pouvez faire au Seigneur pour être élevé vers Dieu, c'est votre homme intérieur. Ça, ça n'a pas de prix. Si vous donnez votre homme intérieur au Seigneur et que vous dites, Seigneur, je t'apporte mon homme intérieur, je te l'offre, et c'est ce que vous avez fait le jour où vous avez accepté Jésus, hein. Je te l'offre, je te le donne, alors ça, c'est la plus grande des merveilles pour Dieu à recevoir. Il s'en fout de l'or et l'argent à côté. C'était qu'une image physique qui nous raconte au sujet du spirituel, de ce qui se passe dans vos vies le jour où vous acceptez Jésus. Et je vais entamer mon point de conclusion. Parce que il y a un grand malheur qui est arrivé au temple et au tabernacle. Et c'est là où tout à l'heure je vous disais que la tâche qui m'incombe aujourd'hui, elle est difficile. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas vous pointer du doigt. Ce n'est pas mon intention. Mais ce que je veux vous dire, c'est pour que tous ensemble, moi y compris, peut-être même moi le premier, sûrement même, moi le premier, on se prenne la main les uns les autres et que nous avançons pour aller vers Christ, pour continuer d'avancer, pour continuer de bâtir sur la pierre angulaire, Yeshua HaMashiach, Fils de Dieu, pour continuer de bâtir sur la pierre angulaire, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est notre rocher et nous devons construire sur le fondement, c'est-à-dire la maison bien érigée, on bâtit sur la pierre angulaire avec ce que les prophètes et les apôtres nous ont laissé comme héritage. En gros, l'Ancienne Alliance, surtout les prophètes. Hein, c'est plein de prophètes dans l'Ancienne Alliance. Moïse étant le plus grand prophète, à part Jésus qui est hors compétition parce qu'il est Fils de Dieu et qu'il n'y a pas de semence d'homme. Moïse, nous disent les Écritures, Moïse, c'est le plus grand prophète que jamais terre a porté. La terre a porté le plus grand prophète du monde, Jésus hors compétition, parce que c'est lui le plus grand prophète, bien évidemment. Mais Moïse est le second. Et nous devons bâtir sur ça. Et vous connaissez un peu l'histoire du temple. Qu'est-ce qui s'est passé avec le premier temple ? David voulait le bâtir, le Seigneur lui a dit « Non, tu as les mains pleines de sang. Tu ne pourras pas, ce sera ton fils Salomon. » Salomon a bâti le premier temple en l'honneur de l'Éternel. Qu'est-ce qui arrive à ce temple ? Pardon ? Il a été détruit. Il a été détruit par qui ? Premier temple a été détruit par qui ? Ça fait partie de l'histoire du monde. Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était roi de Babylone. Et le premier temple a été détruit par Nebuchadnezzar. Les Mèdes et les Perses, ils étaient un peu plus gentils, ils ont dit au peuple de Dieu avec Esdras et Néhémie, allez reconstruire ce temple, allez reconstruire la muraille de la ville de Jérusalem. Ensuite sont venus, et ça c'est les deux empires du Moyen-Orient. Ensuite sont venus deux empires qui venaient de l'Occident. Les Grecs et les Romains. Et les Grecs y sont venus avec leur grande pompe. Ils sont arrivés avec leur armée et Antiochus Épiphane IV, quand il est arrivé à Jérusalem, il a fait la guerre au sein de l'Éternel, il les a combattus et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est rentré dans le temple, il a fait une statue à l'image, à son image, mais qui en même temps représentait un des dieux du panthéon olympien et il l'a placé dans le lieu très saint. Et avant de rentrer dans le lieu très saint et de placer ce faux dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sacrifié deux porcs sur l'autel des sacrifices. Le porc étant considéré comme un animal impur, c'était une grande offense qui était faite à l'Éternel. Ça, c'est pour la part des Grecs. Les Romains, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les Romains, ils sont arrivés avec Titus, avec l'armée, ils ont rasé le temple de l'Éternel. Ils ont tout détruit. Ils ont mis la désolation. Aussi pour placer leur faux dieu. Et aujourd'hui, en Occident, mauvaise nouvelle, nous sommes le résultat de cet empire gréco-romain. Nous sommes leurs descendants. Et les Grecs étaient connus pour l'hellénisation. C'était quoi le but de l'hellénisation ? De faire penser la terre entière, toutes les nations étrangères aussi, de les faire penser comme les Grecs, philosophie, culture, tout le bazar. Faux dieu, panthéon olympien, machin. Le but des Romains, enfin non, ce qui est connu chez les Romains, c'était pas forcément leur but, c'était le paganisme. Culture horrible, sorcellerie, sacrifice aux faux dieux, une panoplie de faux dieux, Mithra, c'est bon, tous les autres que je vais pas citer, faut pas les mettre en l'honneur aujourd'hui. Mais je vous ai dit, les images qui nous sont données dans la Bible concernant ces faux dieux, mais surtout concernant le tabernacle, nous sommes chacun d'entre nous des tabernacles vivants. Et aujourd'hui, le grand malheur que nous vivons en Occident, nous devons faire face à ces empires. Pourquoi ? Parce que comme ils l'ont fait à l'époque, comme les Grecs, avec cette mentalité, avec cette façon de penser, avec les esprits impurs qui gouvernent ces contrées, qui les gouvernent à l'époque, mais qui les gouvernent toujours aujourd'hui, hein, l'Union européenne, l'ONU, n'est aussi que le résultat de cet empire gréco-romain. Et avec leurs pensées, avec leurs décrets, avec leurs lois, avec leurs faux dieux, ils essayent de pénétrer dans vos lieux saints. Ils essayent de pénétrer dans votre homme intérieur. Et ce que Rome a fait lorsqu'il a détruit le temple, c'est qu'il a emmené la menorah, qui est la lumière, c'est le symbole de Jésus, et il a emmené la table des pains de proposition. C'est-à-dire maintenant, c'est nous qui allons nourrir les sacrificateurs. Et là, il y a une catastrophe qui est arrivée. Vous savez ce qui est arrivé quand les Grecs ont souillé le temple ? Il y a une petite histoire que vous connaissez probablement. On a trouvé une petite fiole d'huile. Elle devait brûler 15 jours, mais elle a brûlé 8 jours. Parce que c'est lorsqu'Antiochus Épiphane IV avait souillé le temple, Judas Maccabée et son armée ne se sont pas laissés faire. Ils se sont dit « Oh, c'est quoi cette agression-là ? Le lieu saint appartient à notre Éternel. » Et ils dressent leurs idoles. Non, je suis pas d'accord. Moi, je vais faire la guerre. Judas Maccabée, ça signifie marteau. Il dit, moi, je vais faire la guerre. Il dit, je vais pas les laisser faire. Et aujourd'hui, est-ce que nous avons la mentalité de Judas Maccabée face à l'oppresseur et à l'agresseur qui essaye de prendre le contrôle de nos vies, c'est-à-dire notre chair, qui se bat contre notre Esprit Saint? Est-ce que nous sommes des Judas Maccabée? Ou est-ce qu'on déclare défaite et puis on laisse faire à l'esprit européen ce qu'il veut dans nos corps, au point de nous souiller, au point de faire fuir la présence de Dieu de nos vies? Et ici, j'aimerais conclure sur pourquoi la fiole d'huile, après je conclurai, pourquoi la fiole d'huile a brûlé 8 jours et normalement elle devait durer 1 jour. Parce que l'Éternel, il dit, avec le peu que tu vas faire pour que cette lumière brille en toi et que les ténèbres des Romains et des Grecs soient chassées, avec le peu que tu vas faire, le peu que tu vas m'apporter, une fiole d'huile, c'était minuscule. On connaît l'histoire des fioles d'huile avec les 5 vierges folles, les 5 vierges sages. Avec le peu que tu vas faire, moi je vais faire déborder ta coupe. Et 8, c'est le chiffre de l'infini. C'est-à-dire que si vous apportez un tout petit peu d'huile à l'Éternel, lui, il est capable de faire déborder votre coupe afin que la lumière qui est en nous brille en permanence, jour et nuit, et que les ténèbres romains et grecs n'aient pas d'action sur vos vies. Et il a fait brûler 8 jours. 7, c'est le chiffre de l'accompli. En 7 jours, les cieux et la terre ont été créés. Et 8, c'est le chiffre de l'infini. C'est ce qui vient après l'accomplissement. Et une fois que cette terre aura cessé d'être, dans la fin des temps, on rentrera dans l'infini, dans l'éternité. C'est pour ça que la petite fiole, elle a brûlé 8 jours. Et aujourd'hui, j'aimerais éveiller votre conscience sur le carnage qu'ont réussi à dresser Rome dans les lieux saints que nous sommes. Et lieu très saint que nous sommes. C'est ma conclusion. Pour ça, il faut connaître un peu l'histoire de Rome, un tout petit peu d'histoire. En 54 jusqu'en 68, Néron a gouverné sur Rome. Et Néron qui a gouverné sur Rome, il persécutait les communautés chrétiennes, qui étaient à l'époque reconnus comme étant des sectes juives. Donc, c'est-à-dire, Paul écrit la lettre aux Romains, il l'envoie, il va prêcher à Rome, il fait une communauté. Et il y avait déjà des juifs qui étaient dispersés à Rome, mais il y avait aussi tous les Romains, gentils des nations, qui s'étaient greffés sur ces juifs à qui Paul était venu parler. Et ils formaient une communauté unie, un seul et même homme. Et Néron, qui les avait tenus responsables pour l'incendie de Rome, a décidé de persécuter les chrétiens de manière très violente, horrible. Jetés au lion, crucifiés en grand nombre, on les employait comme des torches vivantes pour illuminer les jardins du palais. Ça, c'est ce que Néron il a fait subir à nos frères et nos sœurs de l'an 54 jusqu'à l'an 68. Pourquoi il les persécutait aussi ? Parce que les chrétiens ne reconnaissaient comme seul Seigneur que Jésus. Ils ne déclaraient pas que César était Seigneur, alors qu'il était divinisé. Et ça, c'est la culture romaine qui s'est inspirée de la culture grecque. Et puis, on va continuer à persécuter les chrétiens jusqu'en l'an 312. Ils vont être persécutés pendant 2 siècles et demi, de manière horrible. Et en l'an 312 arrive le grand libérateur, Constantin Ier, qui va faire valoir un édit, qui est appelé l'édit de Milan. Et Constantin Ier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, les chrétiens, on va arrêter de les persécuter, et ils auront une liberté de culte, et leur culte sera mis à égalité, parce qu'ils devaient faire leur culte en secret, et leur culte sera mis à égalité avec les autres cultes de Rome. Mithras, et je passe tout le reste. Alors, tout le monde est content. En 313, soi-disant, les historiens ne sont pas d'accord, je n'ai pas d'avis personnel, soi-disant, Constantin se serait converti. Vrai, pas vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je vois une manœuvre, en tout cas dans tout ce qui s'est passé. C'est que les chrétiens étaient ces irrésistibles Gaulois qu'on n'arrivait pas à soumettre à l'Empire romain. Et en tant qu'irrésistible gaulois, il fallait trouver un moyen. Ça faisait 2 siècles et demi qu'on les persécutait. C'était une tuerie. Constantin dit, ça fait 2 siècles et demi. S'ils n'ont pas abdiqué pendant ces 2 siècles et demi, est-ce qu'ils vont abdiquer un jour ou l'autre? Je ne pense pas. Donc Constantin, il a arrêté avec la force et il a travaillé avec l'intelligence. Et il a dit, on va faire. Et c'est sa manœuvre en 312 qui s'achèvera en 380, même par d'autres, pas par lui, avec l'édit de Thessalonique. Et Constantin, son souhait, c'était de faire du christianisme. Écoutez-moi bien. Il voulait faire du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Et en faisant ça, il a séduit les élus. En faisant du christianisme la religion officielle de l'Empire romain, d'une certaine manière, Rome arrivait quand même à diriger ces irrésistibles chrétiens et à leur faire plier le genou. Seulement, je vais vous citer 2 historiens qui nous rapportent ces choses. Presque de manière invisible, les coutumes païennes s'introduisent dans l'Église. La conversion de Constantin causa de grandes réjouissances. Le monde est enfin couvert d'un manteau de justice. Et le christianisme entra dans Rome. Le paganisme avait l'air vaincu et éradiqué, tandis qu'il était réellement le grand vainqueur. L'esprit du paganisme dirigeait l'Église romaine, l'Église chrétienne romaine. Des populations entières païennes, par leurs mœurs, par leurs goûts, par leurs préjugés et ignorances, passèrent sous l'étendard des chrétiens, et ce, avec leur bagage de croyances insensées et de pratiques superstitieuses. Le christianisme à Rome adopta et intégra une grande partie du système de l'ancien culte impérial, ainsi que ses fêtes qui prirent toutes des couleurs plus ou moins chrétiennes. Un petit exemple vite fait bien fait. Pâques, la fête des œufs en chocolat, la fête des poules, la fête des cloches de Rome. Quel est le lien? Quel est le lien, s'il y en a un, avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a versé son sang pour nous? Quel est le lien avec la nouvelle alliance, avec cette coupe des délivrances et avec ce pain qu'il nous a proposé? Quel est le lien? Cherchez pas, il n'y en a pas. Parce que les œufs, c'est pour remercier la déesse de la fertilité qui était Artémis et qui a été reprise par les Romains. Artémis, c'est une déesse grecque. Et Artémis, on l'adorait en faisant des orgies dans des temples qui lui étaient dédicacés. Pornéia. Abstenez-vous dans Acte 15. Et aujourd'hui, on voit que dans notre culture, nous sommes confrontés. Alors, je sais bien que ce n'est pas votre volonté à chacun d'entre vous ici présents, mais nous sommes confrontés à ce monde. Et ce monde, lorsqu'on s'y frotte, parce qu'on vit trop près de ce monde, eh bien, on s'y salit. Et ça vient salir nos belles robes blanches. Dans la volonté de Constantin, il y avait aussi le fait qu'il voulait unifier le peuple, parce que le peuple était divisé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait alors un mixte entre les dieux du paganisme et le seul et unique, le vrai, le nôtre. Et on ne peut pas nier que Rome a quand même fait des grands sacrifices. Ils ont sacrifié, mais forcément, on ne va pas attirer les mouches avec du vinaigre. Ils ont fait des grands sacrifices vis-à-vis de leurs faux dieux à l'époque. Pour moi, par cette manœuvre, Rome a réussi à faire plier le genou aux irrésistibles chrétiens qui ne déclaraient que pour seul et unique Seigneur, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Et un jour, il y a des personnes qui se sont rendues compte de ça. Ils ont dit, on va protester, on n'est plus d'accord. En 1500. Et en 1500 est sorti le protestantisme, qui était le début à un retour plus juste. Et puis du protestantisme et du catholicisme sont sortis tous les mouvements, et rien qu'en Belgique, il y en a plus de 280 dénominations. Au monde, il y en a plus de dénominations, il y en a, j'avais lu un chiffre, ça me paraît aberrant maintenant, mais je pense que c'était ça, 44 000 dénominations, déclarations de foi différentes les unes des autres parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, depuis 1500, on se rapproche un peu de la vérité. Donc les protestants, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Les catholiques avaient déjà une partie de la vérité, prêcher Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et après, on sait, les protestants, ils se sont rapprochés d'un pas. Et puis, ils sont sortis les évangéliques, ils se sont rapprochés d'un pas. Puis, ils sont sortis les protestants, ils se sont rapprochés d'un pas. Puis, ils sont sortis les baptistes, ils se sont rapprochés d'un pas. À chaque fois, en réintégrant, dans ce qu'on avait reçu comme héritage, une partie de la vérité en plus. Et puis, un jour, sont sortis les messianiques, qui ont aussi rajouté un petit plus. Mais aujourd'hui, vous savez, il n'y a pas de dénomination qui est meilleure qu'une autre. Tous, elles ont leurs forces, elles ont leurs faiblesses. Mais si cette dénomination déciderait de s'unir avec une seule et même dénomination, qui est le nom de Jésus-Christ, alors nos faiblesses seraient comblées par la force de notre frère. Et ma force comblerait la faiblesse de mon frère. Et aujourd'hui, dans la fin des temps, le Seigneur, il attend un corps uni par l'amour. C'est ce qui nous est révélé dans l'église de Philadelphie. C'est eux qui auront la victoire. C'est eux qui sont irréprochables parce qu'ils ont l'amour. L'amour de Dieu et l'amour de leur prochain. Tiens, les deux plus grands commandements. Et aujourd'hui, peu importe quelle dénomination on porte, quelle dénomination on a, aujourd'hui, ce qui compte, parce que ça, c'est un constat, on s'est rapproché de la vérité depuis 1500. Aujourd'hui, est-ce qu'on reste assis dans notre confort acquis? Ou est-ce qu'on dit, Seigneur, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai constaté qu'effectivement, il y a plus. C'est ce qu'on chante, c'est ce qu'on prie. J'étais étonné parfois quand j'entendais des personnes qui chantaient, Seigneur, je veux plus de toi. Je me dis, attends, il t'a déjà sauvé, il est venu à ta rencontre, comment tu vas avoir plus du Seigneur? Moi, c'est la réflexion que je me faisais. Parce que je me disais, j'étais bien dans mon confort, quoi. Je me disais, moi, je ne fais pas cette prière, ça ne m'intéresse pas. Comment je pourrais avoir plus envie du Seigneur? Il est déjà venu, je crois en lui, ça y est, c'est bon, c'est tout. Eh ben non. Un jour, j'ai confessé, Seigneur, je veux plus de toi. Et Seigneur, il m'a dit, ce que tu veux, en fait, c'est que j'éclaire encore plus ton homme intérieur et que je chasse les ténèbres que les Grecs et les Romains ont dressées dans ta culture. Et c'est ça l'espérance de la nouvelle naissance. C'est qu'on est dans une culture avec un passé, avec des boulets et des chaînes aux pieds. Mais le Seigneur, il a la puissance et la force de nous faire naître de nouveau. Nous ne sommes plus des citoyens gréco-romains, mais nous sommes citoyens céleste, nous sommes citoyens des cieux, avec une nature qui n'est plus d'en bas, mais une nature qui est d'en haut. Et c'est déjà acquis, en partie dans nos vies. Nous avons déjà fait un très très grand chemin. Et il ne faut pas rejeter le chemin que nous avons fait. Il ne faut pas remettre en question les bonnes choses que nous avons reçues. Aujourd'hui, ce qu'il faut remettre en question, c'est les ténèbres gréco-romaines qui demeurent encore en partie, dans le temple intérieur que nous sommes. Il y a cette guerre entre la descendance d'Abraham et la descendance de Nimrod avec la tour de Babel. Le flambeau a été repris par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar l'a cédé à Cyrus, à Darius et ainsi de suite. Il l'a cédé à Antiochus Épiphane, qui avant c'était Alexandre le Grand, et puis ils l'ont cédé à Rome avec Titus, Néron et tous ceux qui viendront. Le grand malheur de l'Église occidentale aujourd'hui, c'est peut-être que malgré elle, à son insu, elle ne marche plus tout à fait sur le chemin qu'avaient commencé à dresser Abraham, Isaac et Jacob, mais ils ont dévié et se sont rendus sur le chemin qu'avait dressé devant eux Constantin. Et aujourd'hui, on est partagé entre ces deux chemins. On fait le grand écart, même parfois, Jésus, Constantin ou Rome ou... Je ne sais plus trop, ma culture, ça me perturbe. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il nous appelle à revenir. Et ne comprenez pas mal mon but, comme je l'ai spécifié, ce n'est pas de vous pointer du doigt en disant « moi, je suis mieux que vous ». Loin de là, je pense que tous, on a encore du progrès à faire dans cette voie. On est tous dans le même bateau. L'Occident nous a tous affectés par sa pensée gréco-romaine. Mais Dieu vous tend la main pour que tous ensemble, nous revenions à l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Vous irez lire Deutéronome 30 pour savoir. Aujourd'hui, il est temps que nous devenions des chrétiens. C'est comique de dire ça. Mais des chrétiens qui n'ont plus le genou plié devant Rome. Et en 1500, il y en a qui ont commencé à décider de se relever. Mais aujourd'hui, peut-être qu'on a encore un genou à terre. Ou peut-être aujourd'hui, on a encore uniquement les genoux fléchis. Mais quand Christ y paraîtra, il souhaite qu'on soit debout. Et que tels les amis de Daniel à Babylone, on ne plie pas le genou devant nul autre que Jésus-Christ, seul Seigneur et Sauveur. Ma conclusion, inspirée des paroles que nous ont laissées les prophètes et Jésus, « Sortez de Babylone, mon peuple, sortez du milieu d'elle, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies, car ses péchés se sont accumulés jusqu'aux cieux et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Partez, partez, sortez de là sans rien toucher d'impur. Sortez du milieu d'elle, purifiez-vous. Vous qui êtes les vases de l'Éternel. » Et les vases de l'Éternel, ils ont été créés dans un usage, avec un but pour un usage propre, pas pour un usage vil. Purifiez-vous, vous qui êtes les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel va devant vous. Le Dieu d'Israël sera ton arrière-garde. Et Jésus, il nous dit, peut-être aujourd'hui on est face à une montagne. On va se dire, Seigneur, j'ai déjà fait ce que j'ai cru, ça y est, je croyais que j'y étais. Ben oui, en partie, on y est. N'oubliez jamais, ne rejetez jamais l'héritage que nous avons reçu jusqu'aujourd'hui. On a reçu l'héritage le plus important. On est sur le rocher, la pierre angulaire. Mais Jésus nous dira, je m'en vais, mais ne vous inquiétez pas. Je vous envoie le Saint-Esprit. Il dit, celui qui m'aime et qui garde mes commandements recevra l'Esprit de vérité, l'Esprit que le monde ne peut pas recevoir. Et à travers la présence du Saint-Esprit avec nous, Jésus nous dit, ne craignez pas, je suis avec vous jusqu'à la fin, je suis avec vous jusqu'au bout. Je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous abandonnerai pas. Alors, aussi, plutôt que de tourner nos regards vers nous et de se dire, Seigneur, mais comment tu veux que je revienne encore plus? Je suis incapable de revenir à l'Éternel. Il a dit quoi à Pierre? Lorsque Pierre il est sorti de la barque et il a marché sur l'eau, Pierre, il a tourné ses regards vers lui et il a commencé à couler, à se noyer. Et si le Machiav n'était pas là, il serait mort. Mais quand Pierre avait les regards fixés sur Christ, alors il marchait sur l'eau. Il avait la foi suffisante pour surmonter cette tempête, pour passer au-dessus de cet obstacle. Et aujourd'hui, après ce constat, je le fais pour moi-même. J'habite aussi en Occident. Aujourd'hui, avec ce constat, la seule chose que nous avons à faire, c'est lever les yeux vers Christ et dire, Seigneur, tu seras avec moi jusqu'à la fin, je le sais. Et par ton Saint-Esprit, Seigneur, pas après pas, je ne vous demande pas de devenir radical, oublié. Mais on avance millimètre par millimètre. Mais on ne revient pas sur la progression qu'on a faite. Il y a des gens, ils avancent 3 km du jour au lendemain, et puis c'était tellement mal fondé, le chemin qu'ils ont parcouru, mais qu'ils reviennent en arrière. Aujourd'hui, revenons millimètre par millimètre au Seigneur. Continuons d'avancer millimètre par millimètre vers le Seigneur, mais ne revenons jamais en arrière. Et nous serons debout, et non pas à genoux, devant un christianisme romain détourné. Nous paraîtrons debout et forts comme des vrais chrétiens, non soumis à Rome. Amen.